Nick Dune. 10 jours après. L'émission était terminée. Andy et les Elliott étaient sortis du champ de la caméra. La productrice de Sharon a éteint la télé de la pointe de son escarpin. Tout le monde dans la pièce me regardait comme si je venais de chier par terre. Sharon m'a fait un sourire trop éclatant, un sourire furieux qui a mis son botox à rude épreuve. Son visage ne se plissait pas normalement. « Eh bien » a-t-elle dit d'une voix calme, snob. « C'est quoi ce bordel ?» Tanner est intervenu. « C'était ça, notre scoop. Nick était et est toujours tout à fait prêt à s'expliquer sur sa conduite. Je suis désolé pour le timing, mais en un sens, c'est mieux pour vous, Sharon. Vous aurez la première réaction de Nick. Vous feriez mieux d'avoir des trucs intéressants à dire, Nick. » Elle s'est éloignée en lançant à personne en particulier. « Mettez-lui le micro, on commence. » Sharon Schieber, en fin de compte, m'a carrément adoré. À New York, j'entendais toujours des rumeurs comme quoi elle avait elle-même trompé son mari avant de revenir dans le droit chemin. C'était une histoire qui se chuchotait dans le petit monde du journalisme. C'était presque 10 ans plus tôt, mais je me suis dit que le besoin d'absolution était peut-être encore là. Il l'était. Elle était rayonnante, câline, cajoleuse et mutine. Elle m'a fait une moue d'une profonde sincérité avec ses lèvres pleines et luisantes, une main sous le menton, et m'a posé des questions difficiles. Et, pour une fois, j'ai bien répondu. Je ne suis pas un menteur aussi prestigieux qu'Amy, mais je me défends quand c'est nécessaire. J'ai eu l'air d'un homme qui a aimé sa femme, qui a honte de ses infidélités et qui est prêt à s'amender. La veille, insomniaque et nerveux, j'avais regardé sur Internet Hugh Grant chez Leno en 1995 quand il présentait ses excuses à la nation pour avoir couché avec une pute. Il bégayait, bafouillait, se tortillait, comme si sa peau était 2 fois trop petite pour lui. Mais il n'essayait pas de se dédouaner. « Je crois que, dans la vie, on sait distinguer le bien du mal, et j'ai fait quelque chose de mal. Ça ne va pas chercher plus loin. » Bon sang, qu'est-ce qu'il était bon! Il avait l'air penaud, anxieux, tellement mal à l'aise qu'on avait envie de lui prendre la main et de lui dire « Mon vieux, c'est pas si grave, te flagelle pas comme ça !» Ce qui était l'effet que je recherchais. J'avais regardé cette vidéo tellement de fois que je courais le risque de me mettre à emprunter un accent britannique. J'étais le nec plus ultra du truqueur. Le mari, dont Amy avait toujours juré qu'il était incapable de s'excuser, le faisait enfin, en empruntant ses mots et ses émotions à un acteur. Mais ça a marché. « Sharon, j'ai fait une chose terrible, une chose impardonnable. Je ne peux pas me chercher d'excuses. Je me suis égaré. Je ne me serais jamais vu comme un mari infidèle. C'est inexcusable, c'est impardonnable. Et je veux juste qu'Amy revienne à la maison pour que je puisse passer le reste de ma vie à me racheter en la traitant comme elle le mérite. Oh ça, j'aimerais vraiment la traiter comme elle le mérite. Mais il y a une chose, Sharon, c'est que je n'ai pas tué Amy. Je ne lui ferai jamais de mal. Je pense que ce qui se passe ici, c'est ce que j'ai mentalement baptisé, petit rire, l'effet Hélène Abbott, cette forme de journalisme irresponsable, dégradante. Nous sommes habitués à voir des meurtres de femmes présentés comme un divertissement, ce qui est répugnant. Et dans ces émissions, qui est coupable? C'est toujours le mari. Alors je crois qu'on a tellement martelé ça que le public, et jusqu'à un certain point même la police, se mettent à croire que c'est toujours le cas. Dès le début, on a pratiquement tenu pour acquis que j'avais assassiné ma femme, parce que c'est l'histoire qu'on nous raconte perpétuellement. Et c'est mal, moralement c'est mal. Je n'ai pas tué ma femme. Je veux qu'elle revienne à la maison. Je savais que Sharon apprécierait l'opportunité de dépeindre Hélène Abbott comme une salope prête à tout pour un bon taux d'audimat. Je savais que la majestueuse Sharon, avec ses 20 ans de journalisme, ses interviews d'Arafat, Sarkozy et Obama, devait être choquée par l'idée même d'Hélène Abbott. J'étais journaliste. Je sais comment ça fonctionne. Et quand j'ai prononcé ces mots, l'effet Hélène Abbott, j'ai reconnu le tressaillement de la bouche de Sharon, les sourcils haussés délicatement, le visage qui s'est illuminé subitement. C'est le regard qu'on a quand on réalise qu'on a trouvé son angle d'attaque. À la fin de l'interview, Sharon a pris mes deux mains dans les siennes. Fraîche, un peu calleuse, j'avais lu que c'était une acharnée de golf, et m'a souhaité bonne chance. « Je surveille votre cas de près, mon ami », a-t-elle dit. Puis elle a embrassé Go sur la joue et s'est éloignée brusquement. L'arrière de sa robe était un champ de bataille d'épingles destiné à empêcher l'avant de faire des plis disgracieux. « Putain, t'as été parfait !» a déclaré Go en se dirigeant vers la porte. « T'es plus du tout comme avant. Tu as l'air maître de toi, mais pas insolent. Même ta mâchoire fait moins sale con. » J'ai viré ma fossette. « Presque, ouais. On se voit à la maison. » Elle m'a donné un petit coup sur l'épaule, comme pour me dire « Vas-y, champion !» J'ai fait suivre l'interview avec Sharon Schieber par deux autres, plus brèves, une pour le câble, une pour une chaîne nationale. Le lendemain, l'interview avec Schieber allait être diffusée, puis les autres prendraient la suite. Une déferlante d'excuses et de remords. Je reprenais le contrôle de la situation. Je n'allais plus accepter de passer pour le mari peut-être coupable, le mari émotionnellement frigide ou le mari infidèle et sans cœur. J'étais le type que tout le monde connaît, le type que beaucoup d'hommes et de femmes ont été. J'ai trompé ma femme, je me sens minable, je vais faire tout ce qu'il faudra pour réparer les dégâts parce que je suis un homme, un vrai. « On s'en sort correctement », a dit Tanner à la fin. « Le truc avec Andy ne sera pas aussi terrible que ça aurait pu l'être grâce à l'interview avec Sharon. Il faut dorénavant qu'on garde systématiquement une longueur d'avance. » Go a appelé. Sa voix était grêle et haut perché.
« Les flics sont ici avec un mandat de perquisition pour la remise. Ils sont chez papa aussi. Ils sont... J'ai peur. »
Go fumait une cigarette dans la cuisine quand nous sommes arrivés. Et à en juger par l'encombrement de mégots dans le cendrier kitsch, elle en était à son second paquet. Un jeune type gauche, aux épaules étroites, avec une coupe en brosse et un uniforme d'officier de police, était assis à côté d'elle sur un des tabourets de bar.
« Je vous présente Tyler, » a-t-elle dit. « Il a grandi dans le Tennessee, il a un cheval qui s'appelle Custard. »«
Custer, »
a dit Tyler.
« Custer, et il est allergique aux cacahuètes, pas le cheval, mais Tyler. » « Oh, et il a une déchirure du labrum, ce qui est la blessure typique des lanceurs au baseball, mais il ne sait pas comment il se l'est faite. »
Elle a tiré sur sa cigarette. Ses yeux se sont remplis de larmes.
« Il est là depuis un moment. »
Tyler a essayé de me jeter un coup d'œil dur, mais son regard a fini sur ses chaussures bien cirées. Bonnie est apparue à travers les portes vitrées coulissantes au fond de la maison.
« Grosse journée, les garçons, » a-t-elle dit.
« On aurait bien aimé que vous preniez la peine de nous informer, Nick, que vous aviez une copine. Ça nous aurait fait gagner beaucoup de temps. »«
Nous serons heureux d'en parler, ainsi que du contenu de la remise, et nous étions en route pour vous mettre au courant, » a dit Tanner.
« Franchement, si vous aviez eu la courtoisie de nous parler d'Andy, beaucoup de douleurs auraient pu être évitées. Mais vous aviez besoin de la conférence, de la publicité. C'est vraiment dégoûtant d'exhiber cette fille comme ça. »«
C'est bon, »
a dit Bonnie.
« Donc, la remise. Vous venez avec moi ?»
Elle nous a tourné le dos et nous a devancés sur le gazon clairsemé de juillet jusqu'à la remise. Une toile d'araignée pendait à ses cheveux comme un voile de mariée. Elle a fait un signe impatient quand elle a vu que je ne la suivais pas.
« Venez, on ne va pas vous mordre !»
La remise était éclairée par plusieurs torches portatives, ce qui lui donnait l'air encore plus sinistre.
« Quand êtes-vous venu là pour la dernière fois, Nick ?»
Je suis venu très récemment, quand la chasse au trésor de ma femme m'a guidé là. Mais ces affaires ne sont pas à moi et je n'ai rien touché. Tanner m'a coupé.
Mon client et moi, nous avons une nouvelle théorie explosive,
a-t-il commencé. Puis il s'est repris. Son ton de présentateur télé sonnait affreusement faux et complètement inapproprié. Nous avons tous eu un mouvement de recul.
Explosive, rien que ça. Comme c'est intéressant,
a dit Bonnie.
Nous étions sur le point de vous informer...
Vraiment, comme ça tombe bien. Restez là, s'il vous plaît.
La porte se balançait sur ses gonds. Un verrou brisé pendait sur le côté. À l'intérieur, Gilpin dressait l'inventaire des marchandises.
« C'est ça, les clubs de golf avec lesquels vous ne jouez pas ? »
a-t-il dit, bousculant les fers miroitants. « Rien de tout cela ne m'appartient. Ce n'est pas moi qui ai mis tout ça ici.
C'est curieux. » Parce que tout ce qu'il y a ici correspond à des achats faits avec les cartes de crédit qui ne vous appartiennent pas non plus, a lâché Bonnie d'un ton cassant. C'est un peu, comment on appellerait ça, le trésor du parfait petit célibataire. Un trésor en cours de constitution, attendant seulement que la femme disparaisse pour de bon. Vous avez des passe-temps sympas, Nick.
Elle a soulevé trois gros cartons et les a posés à mes pieds.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Bonnie les a ouverts du bout des doigts, avec un dégoût évident, malgré les gants en caoutchouc qui protégeaient ses mains. À l'intérieur, des douzaines de DVD porno.
Gilpin a gloussé.
« Je dois vous l'accorder, Nick. C'est vrai, quoi. Un homme a ses besoins. »
« Les hommes sont extrêmement visuels. C'est ce que mon ex disait toujours quand je le chopais, » a dit Bonnie.
« Les hommes sont extrêmement visuels, mais Nick, ces trucs, ça m'a fait rougir. Ça m'a un petit peu écœuré aussi, et je suis pas du genre à me laisser écœurer facilement. »
Il a étalé quelques DVD comme un affreux jeu de cartes. La plupart des titres étaient empreints de violence. Brutal anal, fellation brutale, salope humiliée, salope sadisée, gangbang sur les chiennes, et une série qui s'intitulait « Abîme la pute », volume 1 à 18, avec sur les jaquettes des photos de femmes se tordant de douleur pendant que des hommes inséraient des objets en elles avec un sourire lubrique. J'ai détourné les yeux.
« Oh, maintenant c'est lui qui est gêné !»
Gilpin arborait un grand sourire. Mais je n'ai pas réagi, car j'ai vu qu'on faisait monter Go à l'arrière d'une voiture de police. Nous nous sommes retrouvés une heure plus tard au commissariat. Tanner était contre, j'ai insisté. J'ai fait appel à son égo iconoclaste de cow-boy millionnaire. Nous allions dire la vérité à la police, le temps était venu. Je pouvais supporter qu'il s'acharne sur moi, mais pas sur ma sœur.
Je donne mon accord parce que je pense que votre arrestation est inévitable, Nick. Quoi que nous fassions. Si nous leur disons que nous sommes prêts à parler, peut-être qu'on obtiendra quelques informations sur le dossier qu'ils ont contre vous. En l'absence d'un corps, ils voudront vraiment des aveux, donc ils vont essayer de vous accabler avec des preuves. Et ça pourrait nous donner de quoi relancer notre défense. Et on leur donne tout, pas vrai ? On leur donne les indices, les marionnettes et Amy.
J'étais paniqué, pressé d'y aller. Je me représentais les flics en train de harceler ma sœur sous une ampoule nue au même instant.
À condition que vous me laissiez parler. Si c'est moi qui parle de la machination, ils ne peuvent pas l'utiliser contre vous au procès, dans le cas où on choisisse un angle de défense différent.
Cela m'inquiétait que mon avocat trouve la vérité si complètement impossible à croire.
Gilpin nous a accueillis sur les marches du commissariat, un coca à la main, après un dîner tardif.
Quand il s'est retourné pour nous guider à l'intérieur, j'ai vu que le dos de sa chemise était trempé de sueur. Le soleil était couché depuis longtemps, mais la moiteur restait. Il a écarté ses bras une fois, et la chemise a trembloté avant d'aller se recoller aussitôt à sa peau.
« Il fait encore chaud, » a-t-il dit, « et le thermomètre est encore censé grimper d'ici à demain. »
Bonnie nous attendait dans la salle d'interrogatoire, celle du premier soir, la nuit du jour où. Elle avait fait une tresse indienne dans sa chevelure filasse, et l'avait attachée à l'arrière de sa tête dans un chignon assez pathétique, et elle portait du rouge à lèvres. Je me suis demandé si elle avait un rancard, le genre où on se retrouve après minuit. « Vous avez des enfants ?» lui ai-je demandé en tirant une chaise. Visiblement surprise, elle a levé un doigt. « Un. » Elle n'a pas donné de nom, d'âge ou d'autres détails. Bonnie était en mode pro. Elle tâchait de patienter.
« Vous d'abord, » a dit Tanner. « Dites-nous ce que vous avez. »«
Bien sûr, » a dit Bonnie.
« Ok. »
Elle a déclenché le magnétophone, éludant les préliminaires.
« Vous soutenez, Nick, que vous n'avez jamais acheté ou touché les marchandises qui se trouvent dans la remise de la propriété de votre sœur. »«
C'est exact, » a dit Tanner. « Nick, il y a vos empreintes partout, sur pratiquement tous les objets. »
« C'est un mensonge, je n'ai rien touché, absolument rien, là-dedans. À part mon cadeau d'anniversaire qu'Amy avait déposé là. »
Tanner m'a touché le bras. Bouclez-la.
« Nick, vos empreintes sont sur les DVD porno, sur les clubs de golf, sur les étuis de montre et même sur la télé. »
Et là, j'ai vu à quel point Amy aurait apprécié la scène.
Mon sommeil profond, auto-satisfait, avec lequel je la narguais, convaincu que si seulement elle était plus décontractée, comme moi, son insomnie disparaîtrait, se retournait contre moi. J'ai vu la chose, parfaitement.
Amy, à genoux,
mon haleine chaude de ronfleur sur les joues, en train de poser le bout de mes doigts ici et là, sur plusieurs mois. Peut-être même qu'elle glissait des somnifères dans mon verre. Je me souviens que, un matin, elle m'a regardé pendant que je me réveillais, yeux et lèvres collés, et qu'elle m'a dit « Tu dors du sommeil des damnés, tu sais, ou des drogués ?» J'étais les deux et je ne le savais pas.
« Vous voulez nous expliquer comment ces empreintes sont arrivées là ?» a demandé Gilpin.
« Dites-nous le reste !» a dit Tanner. Bonnie a posé un classeur à couverture de cuir épais comme une bible, carbonisé aux entournures, sur la table entre nous.
« Vous reconnaissez ça ?»
J'ai haussé les épaules, secoué la tête. « C'est le journal intime de votre femme.
»« Non, Amy ne tenait pas de journal. »«
Eh bien, en fait, Nick, si. Elle a tenu un journal pendant environ 7 ans. »«
Ok. »
Quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Une fois de plus, ma femme avait fait marcher sa cervelle.